Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, je vais vous parler d'une femme vraiment merveilleuse, la vénérable Amélie Fristel, qui est morte en 1866 et qui a fondé les Sœurs des Cinq Heures de Jésus et de Marie, qui sont présentes au Québec, surtout dans la région de Joliette. Elles y sont depuis longtemps. Et ce sont des femmes vraiment qui ont été fondées par une sainte. C'est dommage qu'elles ne soient que vénérables. Je ne comprends pas qu'elles ne soient pas encore béatifiées, canonisées. Vous allez voir, c'est une femme merveilleuse. Et d'autant plus, ça nous intéresse d'autant plus qu'elle vient de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est là que Jacques Cartier, c'est là qu'il est parti, n'est-ce pas, pour aboutir ici, au Canada, en 1534. Où il est revenu, il est monté le Saint-Laurent, le premier à venir avec plusieurs autres Français. Et vous pouvez vous demander peut-être, Saint-Malo, qu'est-ce que c'est? Amélie Fristel avait un frère qui s'appelait Malo. C'est un nom. Il y a d'ailleurs, c'est un nom de famille au Québec, Malo. Malo, c'était un moine irlandais qui a fondé Saint-Malo. C'est de là que ça vient. C'est de Saint-Malo que vient Jean-Marie de Lamennais, le fondateur des écoles chrétiennes, ses bons frères qui m'écoutent souvent, paraît-il. Ils m'écrivent, ils m'envoient des livres. Ils m'ont déjà invité chez eux, bien que j'ai fait mes études, moi, chez les frères des écoles chrétiennes. Je les aime beaucoup, les frères de... J'ai fait mes études chez les frères de Saint-Gabriel. Et les frères des écoles chrétiennes sont bien sympathiques, donc fondés par Jean-Marie de Lamennais, qui venait de Saint-Malo, Jeanne Jugan... Sainte Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres aussi. Mais Marie-Amélie Fristel, elle a fondé cette communauté dont je vous ai parlé, des Cinq Heures de Jésus de Marie. Puis, en somme, on l'appelle là-bas la fondatrice des Petites Écoles. Il n'y avait pas d'école, les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes dans les campagnes. Et ces femmes dans cette communauté se sont dévouées auprès d'eux. Puis elle s'est occupée aussi des chômeurs. Elle s'est occupée des vieillards. Elle a vraiment fait un travail extraordinaire. Puis son œuvre s'est étendue à travers le monde, jusqu'en Amérique, jusqu'ici. Et elles ont accompagné les premiers pères eudistes, car elles sont très près de la spiritualité des eudistes, de Saint-Jean-Eudes. Car les eudistes sont venus ouvrir un collège ici, en 1891, à la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Et puis, la congrégation des sœurs est passée de l'Acadie à la Nouvelle-Angleterre. Puis en 1903, à Joliette, ça s'appelait l'Industrie dans ce temps-là, dans le comté de la Naudière. Et elles ont fondé de nombreuses écoles, et elles sont toujours là. Mais qui est cette Amélie? Elle est née à Saint-Malo, donc, il y a 200 ans, en 1798, au matin du 10 octobre, et elle mourra le 14 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui de son décès, de son entrée au paradis, on pourrait être sûr de ça, je pense. Ses parents habitent depuis quelques années à Saint-Malo, sur la rue Sainte-Anne. Et son père est notaire et avocat en plus, Maître Fristel, qui est originaire de Dole. Je vous ai déjà parlé un peu de Dole en parlant d'un saint. Il y a épousé Reine. Et d'ailleurs, ils vont avoir une fille, une première fille, qu'ils baptiseront Reine. Et son deuxième nom, c'est assez surprenant, c'est Thomase. C'est le féminin de Thomas, Thomase. Le Marescal, son nom de famille. Lui, il exerce les fonctions de juge au moment de son mariage, mais la Révolution lui a enlevé à Dole sa place, puis il est venu s'établir à Saint-Malo. Madame Fristel, elle éprouve, elle, pour sa petite Amélie, un amour, un grand amour de prédilection. Pourquoi? Parce que elle est comme certains enfants, hein, c'est que dès qu'elle s'éveille, elle sourit, elle tend les bras vers sa mère, et c'est précieux, un enfant comme ça, hein. Et en 1801, bon, elle a même pas 3 ans, il lui arrive quelque chose de bien catastrophique, elle perd son père. Elle perd son père. Rien ne laissait pressentir une aventure pareille. C'est curieux comme c'est arrivé. C'était un fervent catholique, ce maître Fristel. Il avait participé quelques jours auparavant, avant sa mort, là, à la fête religieuse. qui avait réjoui toute la population de Saint-Malo. Qu'est-ce que c'était que cette fête? C'était une grande manifestation de foi qui avait marqué la signature du Concordat et la réouverture de la cathédrale qui était fermée depuis 10 ans à cause de la persécution contre l'Église catholique sous la Révolution française. Alors on a chanté le Te Deum, chant d'action de grâce à Dieu. On a fait une réparation solennelle des orgies qui avaient été commises dans la cathédrale, profanées par le fameux culte de la déesse Raison, la prétendue déesse Raison. Or, par respect, M. Fristel était resté nu-tête, sous le soleil, un soleil ardent. Et soudainement, il était pris de malaise, et puis il est ramené chez lui, puis une congestion se déclare. Il meurt, âgé de 46 ans, c'est un accident vraiment stupide. Alors, Mme Fristel est seule maintenant pour assurer l'avenir de ses 4 enfants, mais heureusement, elle a assez d'argent. Elle est soucieuse de mener, comme il faut, les études de ses fils. Le petit Malo dont je vous ai parlé, puis Étienne aussi. Elle décide de conserver son domicile à Saint-Malo, mais de louer une maison à Rennes. Et comme ça, ben, elle pourra, tout au long de l'année scolaire, veiller de près à leur éducation, pas leur faire faire leurs devoirs, apprendre leurs leçons. Rennes, la plus âgée, qui a 18 ans, des enfants, là, elle est chargée de la première instruction de la petite sœur, Amélie. Quant à Malo et Émile, ben, ils vont suivre les cours au lycée impérial. Et la jeune institutrice de 18 ans, la reine, est d'humeur rude et autoritaire. C'est pas une fille vraiment bien sympathique comme Amélie, la plus jeune, très différente. Elle se donne de l'importance, puis elle prend son rôle de très haut. Elle se montre d'une sévérité excessive, d'ailleurs, à l'égard de son élève. En l'absence de leur mère, Madame Fristel, elle va jusqu'à la mettre pendant des heures au cachot, dans une espèce de garde-robe en haut, là, puis avec pour toute nourriture du pain sec et de l'eau. C'est ridicule. Mais un bon jour, la pauvre reine est prise de remords. Alors, elle vient tout avouer à sa mère, puis elle lui dit « Comme j'ai été cruelle envers ma jeune sœur. » Cette petite est un ange de patience et de bonté. Elle ne se révolte jamais. Et cet enfant grandit. Et elle suit maintenant les cours de l'école voisine, se classe parmi les meilleurs élèves. On a remarqué sa conduite exemplaire. Alors, jeune adolescente, elle goûte beaucoup la lecture. Elle aime lire. Hein? Puis elle prend conseil de son directeur, un jésuite, un bon jésuite, pour la guider dans son choix. Il l'a remarqué, il la connaît depuis longtemps, ce bon père, qui lui demande un jour au confessionnal de s'engager à ne commettre aucune faute volontaire pendant toute une semaine. Parce qu'il a deviné les possibilités de cet enfant, très jeune encore. C'était même avant sa première communion. Et il voulait la mettre à l'épreuve. Cependant, pour l'encourager, il lui promet, comme on faisait à l'époque, hein, et même il n'y a pas si longtemps, une belle image de la Sainte Vierge. Comme elle réussit au bout de la semaine, elle reçoit de ce bon prêtre un beau tableau de la Sainte Vierge. Et le bon Jésuite lui dit qu'elle te garde toujours aussi pure. Reste-lui bien fidèle, elle est ta mère et ton modèle. Et elle va profiter de ce conseil. Le bon cœur d'Amélie l'incline surtout vers ceux qui souffrent. Si elle rencontre sur sa route des enfants miséreux, elle leur distribue des friandises qu'elle a reçues. Elle sait dire un mot aimable à ces pauvres enfants qui sont très nombreux, qui n'ont pas comme elle la possibilité de suivre l'école, qui ignorent le confort, qui peut-être même n'ont pas l'affection maternelle. Alors elle est ardente et capable d'une grande influence sur les autres. Et Amélie forme une équipe avec des compagnes pour organiser la visite chez les pauvres. Après la classe, elles s'en vont vers un taudis, disons, où loge un vieillard qui n'a rien, ou bien dans un autre taudis, c'est une grabataire qui est en détresse, qui est couchée. Là. Et elles mettent de l'ordre dans ces maisons, des taudis. Elles préparent le repas, elles apportent avec quelques douceurs des fruits, toutes sortes de choses. Elles apportent surtout le soleil de leur jeunesse, hein, et le réconfort d'une parole compatissante, hein. Comme un petit peu les petits frères et les petites sœurs des pauvres. Hein? Ce sont des semeuses de bonheur. Elles expérimentent combien grande, retenez bien ça, combien grande, et la joie de la main qui reçoit, mais plus grande encore, et la joie du cœur qui s'est donné. Hein? La vénérable Amélie revient souvent sur cette parole. Grande est la joie de la main qui reçoit. Plus grande la joie du cœur qui s'est donné. Et sans être mondain, bien, le milieu dans lequel vit Amélie, c'est celui des familles bourgeoises de l'époque. Hein? C'était comme ça au début du siècle, ici à Montréal. Madame Fristel tient beaucoup à ses relations sociales, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. On organise des goûters, de ce qu'on appelle des farandoles, hein? Des soirées littéraires ou artistiques, alors très à la mode. La jeune Amélie, bien, elle est obligée de s'y soumettre, malgré la répugnance qu'elle éprouve, ce genre de divertissement. C'est pas facile pour elle. Mais le moment est venu pour cette jeune demoiselle Fristel de manifester son choix. Elle vient d'atteindre 18 ans, c'est 18 ans. Elle n'ignore pas les intentions de sa mère, qui rêve pour elle d'un bon parti digne de son rang. Elle est fille d'avocat et de notaire, quoi. L'occasion tarde pas à se présenter. Amélie est demandée en mariage. Or, heureusement, le jeune homme est vraiment recommandable. Carrière brillante qui s'ouvre devant lui. Les deux familles se connaissent depuis longtemps. Les deux familles souhaitent vivement cette alliance. Et tout fait présager un bel avenir. Amélie est la jeune fille idéale pour fonder un foyer heureux et chrétien, mais quand même, elle refuse. C'est un drame. C'est qu'elle ressent cette vocation religieuse. Madame Fristel ne cède pas au début, hein, pendant plusieurs années même. Amélie va subir les assiduités de ce prétendant, mais aussi les pressions des deux familles. Et un jour, enfin, Madame Fristel comprend, parce que c'est une bonne personne. Puis elle cède à sa fille. Alors, Amélie Fristel est pas folle, elle a un bon argument. Elle dit, « Poursuivez vos désirs, maman. Je devrais vous abandonner, tandis qu'en prenant le Christ pour époux, je ne vous quitterai plus jamais. » Puis elle se dit au fond de son cœur, silencieusement, elle dit, « Puisque je ne puis songer à entrer au couvent, ne serait-il pas à propos que je fasse pour le moment vœu de virginité dans le monde? » Elle soumet ce projet à son directeur, puis d'accord avec lui, elle prononce, comme laïque, cet engagement pour un an, avec l'intention de le renouveler chaque année. Et vers 1817, Madame Fristel quitte Rennes pour revenir à Saint-Malo. Et ce retour que l'on croyait définitif ne sera en réalité que de courte durée. Et bientôt, en effet, l'aîné des fils Malo arrive à la maison pour se reposer. Et dès l'abord, ben, le médecin se rend compte qu'il y a là un état grave, que l'enfant a besoin de tranquillité à la campagne. Alors Madame Fristel loue à Beaulieu, près de Paramé, une villa, et c'est donc un nouveau changement de résidence. Amélie, ça lui fait de la peine, mais jour et nuit, pendant 2 mois, Amélie ne quitte presque pas le chevet de son frère aîné. Et puis, Émile, lui, qui vient d'être promu officier au grade d'officier de l'artillerie, arrive un soir pour passer quelques jours de congé en famille, et dès le lendemain, il est pris, lui aussi, à son tour, d'une fièvre violente. Mais le docteur n'y trouve rien d'alarmant, tandis qu'il jure le cas de Malo plus désespéré. Et là, elle se met en prière, la petite Amélie, puis elle entend au fond de son cœur que c'est son frère Émile, l'officier, qui va mourir lundi. Elle se demande comment ça se fait qu'elle entend ça au fond de son cœur. Alors, elle se précipite et malheureusement, le jeune Émile meurt dans la fleur de ses 21 ans. Et l'autre est guéri, Malo est guéri. Alors voilà que notre Amélie Fristel a perdu son frère qui était officier d'artillerie. Mais heureusement, son autre frère va mieux. Mais arrive un autre drame, c'est sa sœur aînée, Reine, qui perd son mari. Elle a 4 enfants. Alors elle demande à Madame Fristel, la mère, de la recevoir quelque temps avec ses enfants. C'est Amélie, évidemment, qui s'occupe de ces enfants-là. Et puis, Reine se montre exigeante et ingrate à l'égard de sa jeune sœur. Elle la traite en servante, méprisable. Elle la trouve pieuse, et elle n'est pas tellement pieuse, Reine. Au départ de sa sœur, au départ de Reine, bien, Amélie se montre aimable. Elle se charge même volontiers de l'éducation de ses enfants qui sont restés à la maison. Eux, ils sont ravis de rester chez leur grand-mère, où ils se plaisent beaucoup avec Amélie. Bientôt viennent les rejoindre 2 petites cousines, les 2 filles de Malo. La plus jeune, c'est Léocadie, retenez ce nom, c'est cette nièce qui va lui succéder comme supérieur général de la congrégation des cinq heures de Jésus de Marie plus tard. Donc la jeune Léocadie n'est encore qu'un bébé de 6 mois. Son existence est en danger. Amélie prie. Elle s'adresse au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, sauvez cet enfant. Et les fièvres disparaissent. Elle obtient le miracle. Et Léocadie va devenir cette mère Marie-Thérèse, hein, qui va lui succéder plus tard, comme supérieure générale. À l'éducation de ses neveux et nièces, Amélie ajoute le rôle de catéchiste volontaire au village de Beaulieu, alors isolé du bourg, par la distance puis des chemins praticables en hiver. Madame Fristel est aimée de tous les milieux, Mademoiselle Fristel, est aimée de tout le monde au quartier de Beaulieu. Elle est tellement sympathique. Puis, elle est bonne. Les enfants accourent dès qu'ils la voient. Les gens l'abordent facilement aussi. Elle a un grand cœur. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il paraît qu'elle était phénoménale pour ce qui est de la charité et de l'amour. Elle visite les familles. Elle est partout. Elle vient prendre des nouvelles d'un malade, distribuer quelques biens. Dans la mesure où la laisse disponible le soin de sa mère et la tenue de sa maison, elle est vraiment toute au service des autres. Au service des autres. Et comme elle n'a pu répondre à son attrait pour la vie religieuse, Mademoiselle Fristel a été sollicitée plusieurs fois de faire partie du tiers-ordre eudiste de Saint-Jean-Eudes. À Paramé, ce tiers-ordre avait pour directeur local un prêtre, le vicaire de la paroisse, l'abbé Rosti, qui va beaucoup s'en occuper. Or, Amélie Fristel ne se sent pas du tout portée vers cette société, ce tiers-ordre. Ça ne l'attire pas, elle ne sait pas trop pourquoi. Mais cependant, lors de la maladie qui a suivi la mort de son frère, on a vu tout à l'heure, elle cède à une inspiration, comme on dirait, surnaturelle, puis elle promet, finalement, de s'affilier à ce tiers-ordre si elle guérit. Et sans le savoir, elle entre dans le plan providentiel. Puis elle pose les fondements de l'œuvre qu'elle va fonder, parce que ce tiers-ordre eudiste, Amélie apprend à l'aimer davantage à mesure qu'elle le connaît mieux, et elle se plaît à approfondir surtout la doctrine du fondateur de ce tiers-ordre, qui est Saint-Jean-Eudes, un grand apôtre du Sacré-Cœur, ce grand missionnaire normand du XVIIe siècle, que le pape Pie X a déclaré le père, le docteur, l'apôtre du culte des cinq heures de Jésus et de Marie. Oh, je vous ai fait une petite émission il y a bien longtemps, le 18 août 95, mais j'y reviendrai sur Saint-Jean-Eudes. Et Saint-Jean-Eudes est un contemporain de Monsieur Ollier, dont je vous ai parlé aussi. Et c'est à lui que nous devons 3 congrégations religieuses, les eudistes, les Sœurs de Notre-Dame de Charité et celle du bon pasteur d'Angers, que vous devez connaître probablement. Il établit aussi des séminaires pour la formation des prêtres. Et dans l'idéal proposé aux tertiaires eudistes, Amélie Fristel trouve la réponse à ses aspirations intimes, une spiritualité qui la nourrit. Retenue dans le monde par leurs obligations, les tertiaires mènent une vie de piété puis de dévouement dans les formes très nombreuses de la charité auprès des enfants, des pauvres, des souffrants qui sont très nombreux à l'époque. C'est au lendemain de la Révolution, il y a tellement de problèmes. Mais aujourd'hui aussi, c'est plein d'enfants, de pauvres et de souffrants. Et c'est bien ça que Mademoiselle Fristel fait chaque jour, et de façon si exemplaire, que le groupe de Paramé, là, il tarde pas à élire leur petite supérieure. Et le choix est heureux parce qu'elle est dynamique. Et elle redonne un élan nouveau à cette association, qui a eu beaucoup à souffrir au cours de la terreur lors de la Révolution française. En 1836, elle a 38 ans, la santé de sa mère, Madame Fristel, va décliner visiblement. Le dénouement paraît proche, et cependant, par une étrange illusion, Madame Fristel pense avoir encore bien des années à vivre. Oh, elle reste quand même très attachée à la terre, imbue d'idées jansénistes. Elle a peur. Il faut toute la délicatesse d'Amélie pour l'amener peu à peu à s'abandonner entre les mains de Dieu et non pas d'avoir peur de Dieu. Enfin calmée devant la mort, Madame Fristel reçoit les sacrements. Puis elle dit à ses enfants réunis autour d'elle, « Ce que je vous recommande surtout, c'est de ne jamais faire de peine à votre sœur Amélie. » Et Amélie se sent bien seule maintenant. Son avenir, elle l'a sacrifié à 38 ans. Elle ne peut plus songer à entrer au couvent. C'est trop tard à cette époque. On entre plus jeune que ça. Aujourd'hui, on peut rentrer à 38 ans, hein. Et elle dit que désormais, tout mon temps, je le donnerai aux autres. C'est toujours son de cloche. Je le donnerai aux autres, mon temps. Et les familles en détresse sont très, très nombreuses. Amélie cherche à les soulager par tous les moyens. Tous les moyens. Avec une discrétion qui bien souvent laisse dans l'ombre son action. Elle est discrète. Elle intéresse au sort des pauvres, les riches du voisinage. Elle s'arrange pour faire parvenir par une voie inconnue le secours nécessaire afin qu'on ne les remercie pas sans arrêt. Les fréquents rapports de Mademoiselle Fristel avec les pauvres ou les indigents lui ont appris qu'une des causes les plus ordinaires de leur misère, c'est le chômage. Alors, la région de Paramé compte beaucoup, beaucoup de chômeurs à cette époque, puis il n'y a pas d'organisme d'assistance sociale. Mademoiselle Fristel conçoit donc un plan audacieux pour l'époque. Très simple aujourd'hui, mais c'est une novatrice. Elle s'arrange pour procurer aux familles les ressources d'un travail à domicile. Il s'agit de leur fournir des matières premières, là, de la laine, du chanvre, du lin, qui seront tissés et transformés en produits fabriqués. Et les bénéfices de la vente seront répartis par les fabricants. C'est une bonne idée. Et avant de se lancer dans une entreprise pareille, mais Amélie Fristel prend l'avis de ses conseillers habituels, l'abbé Rosti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le père Louis de la Morinière, qui est le supérieur des eudistes. L'un et l'autre approuvent son projet et l'engagent à le mettre à exécution. L'abbé Rosti, d'ailleurs, lui dit, puis c'est un prêtre intelligent, « Donnez du travail aux pauvres, invitez les riches à vous en fournir les moyens. Il me semble que c'est bien la charité la mieux entendue. » En même temps que le remède à une oisivité néfaste. Alors Amélie se met donc à l'œuvre. Elle monte un petit commerce de mercerie. Elle organise aussi de temps à autre des kermesses, des bazars. Toutes les bonnes volontés sont mises à contribution. Les gens de Saint-Malo et des environs qui viennent passer l'été à leur maison de campagne, les touristes de passage à Paramé s'intéressent à ce qu'on appelle le bureau des pauvres. Une pensée hante constamment l'esprit de Mademoiselle Fristel. C'est la solitude des vieillards, leur existence souvent triste, précaire. Alors que faire? Leur ouvrir un asile dans ma maison, mais c'est pas possible. Ces pauvres gens seraient beaucoup trop à l'étroit puis s'ennuieraient dans mon petit jardin. Et en 1844 va surgir un miracle. C'est un tertiaire de Paramé, une tertiaire plutôt, sur le point d'entrée en communauté, qui vient faire ses adieux à Mademoiselle Fristel. Alors Amélie Fristel, elle lui recommande de prier à ses intentions. Et l'autre lui demande, que faut-il demander pour vous? Ben, elle dit, demandez donc un grand jardin. Un grand jardin. Les vieillards que je voudrais recueillir pourraient le cultiver puis s'y promener. Et l'autre dit, entendu. Et le 1er mai se termine sa neuvaine. Et elle est exaucée. Personne ne s'en doute. Parce que le 1er mai 1844, faut bien retenir cette date, c'est le début d'une belle histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. C'est une histoire merveilleuse où elle va hériter d'une fortune remarquable. Je vous ai dit que je vous raconterai un miracle. Il était une fois un riche cultivateur, propriétaire d'un grand domaine qui s'appelait Les Chênes à Paramé. Malgré son nom, il s'appelait Henri le Marié, mais c'était un célibataire. Il n'avait plus de parents à qui laisser sa fortune. Mais il a vu Amélie Fristel à l'œuvre, il l'admire. C'est pourquoi, par testament, il écrit de sa main le 1er mai 1844, le jour où la neuvaine qui a été faite pour lui procurer un domaine s'est terminée, il écrit son testament. Une date mémorable. Mais il ne meurt que 2 ans plus tard. Après sa mort, le 25 juin 1846, cet ami des pauvres est regretté, il est pleuré dans toutes les régions. Mais quel étonnement, l'ouverture du testament. Peut-être une déception pour quelques-uns de ses héritiers éventuels, mais c'est un coup de théâtre pour Mademoiselle Fristel qui s'y attendait pas. Alors le vaste domaine dont Madame Fristel, Mademoiselle Fristel devient subitement propriétaire comprend, imaginez, une maison bourgeoise. Très belle maison, hein? Avec jardin et pavillon d'agrément, une ferme, un verger et des champs sur une étendue de plusieurs hectares. Puis il y a de grands chênes qui ont donné leur nom à l'enclos, ainsi qu'au château voisin. Alors aux chênes, on en arrive à réunir des ouvriers qui ouvrent le chantier, des peintres, des menuisiers qui sont à l'œuvre. Puis en décembre, tout va être prêt. Et alors, pour inaugurer, c'est le jour de Noël qu'on le fait. Pendant le repas de Noël, on parle évidemment de l'entreprise, du bien qu'elle est appelée à faire dans le pays, puis des aides qui seront indispensables pour seconder Mme Fristel, mais il arrive quelque chose de merveilleux. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est l'hôtelier voisin. Il est tout ému. Il raconte le spectacle qu'il vient de découvrir dans son grenier, un vagabond exténué qui s'est réfugié là pour mourir. Le vagabond se dit abandonné de Dieu et des hommes. Il ne veut pas entendre parler du prêt. D'ailleurs, ajoute l'aubergiste, hein, comment montrer, ou monter même, le Saint Viatique dans ce réduit où l'on n'accède que par une échelle chambranlante? Et ce malheureux qui s'appelle François Parcouet n'est pas un vieillard, il n'a que 42 ans, mais il semble bien envoyé par Dieu pour être le premier hôte du nouvel asile. Et le jour même, il est hospitalisé au chêne. Il est l'objet de tant de soins charitables qu'il se convertit puis il meurt le 19 janvier, à peine quelques semaines plus tard, dans des sentiments de piété qui édifient tout le monde. Et le lendemain de Noël, il y a une femme, cette fois-ci de Rottebeuf, Guillaumette Huet, âgée de 75 ans, qui est reçue à son tour. À la fin de janvier, la grande maison est remplie. 12 vieillards, hommes et femmes. Et à perpétuité, bien, dans la congrégation des 5 heures, on va commémorer ce Noël 1846, alors que Amélie avait 48 ans. On peut dire que le Messie, notre Seigneur, est entré à Notre-Dame-des-Chênes en la personne de son pauvre. Parce que Jésus dit bien, celui qui le reçoit me reçoit moi-même. Pour le moment, Mademoiselle Fristel ne peut établir sa demeure au chêne. Sa présence reste indispensable pendant quelque temps encore à la tête du bureau de charité dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis d'autres œuvres paroissiales. Son cœur est immense, elle s'occupe de tant de choses. Alors elle se contente de venir chaque jour pour visiter ses bons vieillards. Mais il y a des femmes qui viennent l'aider au chêne, là, pour aider les vieillards. Puis finalement, le 1er mai 1847, Amélie vient rejoindre ses compagnes. Ça va être le début de la fondation de cette congrégation, hein. Elle a remis à d'autres le gouvernail des organismes qu'elle dirigeait à Paramé. Puis, elle peut maintenant se donner tout entière à ses vieillards. Oh, ils la connaissent, ils l'aiment bien. Et les premières servantes, donc, des pauvres, à Notre-Dame-des-Chênes, appartiennent toutes les quatre au tiers-ordre de Saint-Jean-Eudes. L'influence de cette profonde dévotion au Sacré-Cœur qu'elles ont. Et pour répondre à leur désir commun, là, d'une vie organisée de prière et de dévouement, Amélie songe à établir un règlement. Elle le rédige au cours d'une retraite. Puis elle le soumet au jugement du père de la Morinière, là, le supérieur des Eudistes, puis à l'abbé Rosti, son directeur, puis elle écrit « Aimons-nous comme Jésus nous a aimés ». C'est comme ça que ça commence, hein, ça règle. Les quatre sœurs, comme on les appelle déjà dans le public, méditent avec foi certains petits passages, je vous en cite quelques-uns. « Ne formons qu'un cœur et qu'une âme. Aidons-nous mutuellement. Aimons les pauvres, respectons-les. Que la reine des vertus, la charité, anime toutes nos actions. » Alors, pour toutes les provisions de cette première année, il n'y a pas grand-chose de du blé noir puis une barrique. Mais il y a quelque chose de formidable qui surgit. Il y a un homme, M. Thomas des Essarts, qui a coutume de fournir chaque année le gâteau des rois. Vous savez, vous connaissez ça, il y a une fève et un pois là-dedans, là, puis ceux qui trouvent ça se deviennent reines et rois, hein, pour la fête des rois. Or, tous les ans, l'épiphanie, on attend le petit miracle. Vous vous demandez quel miracle, je vais vous raconter ça, c'est très sympathique. Un jour, en effet, Amélie a commencé le partage de la brioche traditionnelle et on lui fait remarquer qu'il faudra diminuer la grosseur des morceaux, là, pour que chacun puisse en avoir. Puis elle continue sans rien dire, elle s'occupe pas de ça. Au grand étonnement de l'entourage, il y en a pour tout le monde. Et cette multiplication de la brioche se renouvelle durant les années suivantes. Mais une fois, Amélie Fristel est occupée. Elle charge une sœur de couper le gâteau, mais hélas, la multiplication n'a pas lieu. C'est étrange, hein? C'est peut-être là le signe de la sainteté d'Amélie Fristel, il me semble. Chaque dimanche, on conduit les hospitalisés assez valides aux offices de la paroisse. Ça leur permet de jaser, de causer avec les gens qu'ils connaissent. Et puis, ils racontent qu'ils sont bien au chêne avec la communauté. Il y a une ambiance familiale qui règne parmi eux, tous ces vieillards. Ça facilite l'acclimatation, mais il y a bien quelques ombres au tableau. Il y en a une, Marie R., qui est toujours d'humeur maussade. Mais Amélie finit par l'amadouer. Amélie excelle aussi dans le pardon des injures. On la blâme quelquefois, mais c'est pas son avis. Pour elle, c'est la mansuétude à l'égard de tout le monde, même ceux qui nous détestent. À Noël 1848, elle a donc 50 ans, c'est le second anniversaire de la fondation, puis il est marqué par l'entrée de la nièce, Léocadie Fristel, qui a 24 ans. Elle se demande si elle devrait pas rentrer au Carmel de Laval. Mais finalement, elle se laisse avoir par la dévotion au Sacré-Cœur. L'ancien salon de la maison de Monsieur le marié, qui a été légué, qui est devenu le couvent, là, a été transformé en oratoire. Et l'autel offert par la paroisse est celui sur lequel le père de Clorivière, dont je vous ai parlé le 9 janvier 97, officiait pendant la Révolution alors que c'était très dangereux. À un moment donné, le 27 juin 1850, il y a un violent orage qui s'abat sur la région. La frayeur partout, il y a des dégâts. Mais grâce à Dieu, aucune victime. Et Amélie Fristel voit là comme une indication de Dieu pour mettre à exécution le projet conçu depuis longtemps, c'est-à-dire l'agrandissement des locaux. Mais manque d'argent. Mais c'est rendu que le public l'admire tellement que surviennent des ouvriers d'un peu partout. Mais des drôles d'ouvriers, parce qu'il y en a que ce sont des prêtres, ce sont même des citadins qui manient la pelle, la pioche et tout ça. Et finalement, la première pierre est posée en 1851, le 2 juin, puis un an plus tard, la chapelle est achevée. Oh, la fondation est bien ce qu'Amélie Fristel avait rêvé pour ses déshérités de ce monde, un oasis de bonheur, une lueur d'espoir vers l'au-delà. Deux sœurs découvrent un pauvre homme qui vit dans des conditions tellement effrayantes. Sur la plage, il y a quelques planches pourries, des herbes desséchées qui forment une toiture. Il y a une blouse déchirée qui sert de portière. C'est le bonhomme Maillard et elle l'amène à la maison. Et puis, il finit par bénir Dieu, cet homme qui le maudissait. Des œuvres de bienfaisance. Une vie entière consacrée au bonheur des autres, les gens remarquent ça. Et on décide, dans la bonne société, de lui obtenir une décoration de l'Académie française. Et l'Académie française, finalement, l'honore en 1855. Et elle reçoit une médaille de 500 francs. Plusieurs fois le jour, la cloche de la chapelle annonce les prières en commun, puis les réunions des sœurs. Alors, elles sont considérées de plus en plus par des sœurs, bien qu'elles n'aient pas fait leur vœu. Et puis, un bon jour, au temps où elle habitait Beaulieu, oh mon Dieu, c'est il y a longtemps de ça, il y avait une clarté subite qui avait illuminé sa chambre. Et sa mère se demandait si elle n'avait pas allumé la lumière, mais non. C'était la Sainte Vierge qui lui était apparue et qui lui avait annoncé qu'elle deviendrait fondatrice d'une famille religieuse. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Il y avait le curé d'Ars à l'époque. Et un jour, elle demande à une voisine qui s'en va à Ars si elle pourrait pas lui apporter une lettre au curé d'Ars. Alors cette voisine, Madame Thierry, doit rester un mois à Ars, mais 8 jours après son départ, Amélie reçoit déjà directement la réponse du curé d'Ars et elle dit que cette lettre est pour elle un trait de lumière. Avant de recevoir ma lettre, dit-elle, il s'était senti pressé de célébrer le Saint-Sacrifice à l'intention pour laquelle je le consultais. Alors elle est pleine de confiance à la suite de la lettre du curé d'Ars. Toutes les difficultés s'aplanissent et la cérémonie de profession religieuse a lieu le 11 novembre 1853 dans l'intimité. Chacune des sept sœurs formule son engagement, pauvreté, chasteté, obéissance. L'année suivante, on adopte un costume avec un crucifix. Amélie Fristel est devenue mère Marie-Amélie, fondatrice et supérieure générale de la congrégation des cinq heures de Jésus et de Marie. Cette femme au très, très grand cœur qui me fait beaucoup penser à sa concitoyenne, sainte Jeanne Jugan, fondatrice des petites sœurs des pauvres. De par ses origines, la nouvelle congrégation est hospitalière. On songe pas à d'autres formes d'apostolat. Mais on leur demande de plus en plus d'aller dans des écoles parce que les campagnes sont dépourvues d'écoles. Elles vont en fonder. Mère Marie-Amélie hésite pendant près de 6 mois. Âgée de 57 ans, elle sent pas assez jeune pour se lancer dans une telle entreprise. Mais on fonde finalement 3 écoles en 1856, 2 autres l'année suivante, et la multiplication progresse comme ça. En 1860, en quelques années à peine, 20 écoles ont été créées. Puis le nombre des sœurs approche de 50, là. Ça grandit tout le temps. Puis de par amis partent finalement sans arrêt de nouvelles religieuses, qui se répandent un peu partout. Et Mère Marie-Amélie préférait un rythme moins accéléré. Mais les curés sont exigeants, ils ont besoin de sœurs. Et Mère Marie-Amélie s'efforce d'assurer la compétence puis l'esprit surnaturel de ce qu'on appelle, celles qu'on appelle les sœurs des petites écoles. Hein? Et parfois, les écolières voient apparaître au portail une nouvelle silhouette. C'est une visitatrice, ah oui, qui vient simuler le travail des maîtresses et de leurs élèves. Et l'inspection s'achève par une distribution d'images. Ah, comme elles aiment les images, ces enfants. Et Léocadie Fristel, la nièce de la fondatrice, l'aspirante au Carmel, a attendu 5 ans la réalisation de son désir, la congrégation vouée au Sacré-Cœur, et Dieu l'a visiblement marquée pour être la coopératrice de Mère Marie-Amélie, et plus tard, elle va lui succéder. Donc Léocadie Fristel, la nièce, sous le nom de Mère Marie-Thérèse, assume la charge de maîtresse des novices. C'est une psychologue très avertie, c'est une femme intelligente. La contemplation puis l'action lui fournissent les qualités vraiment nécessaires pour ce rôle de formatrice et conseillère des jeunes sœurs. C'est très important et dans une communauté qu'une maîtresse des novices qui forme dans une espèce de liberté, de joie, les jeunes sœurs pour qu'elles deviennent des femmes accomplies. À la maison mère, les jeunes et les vieux, les jeunes sœurs puis les vieux sont voisins, ils fraternisent. Il y a les vacances, puis la retraite annuelle qui ramène à Notre-Dame-des-Chênes les sœurs qui sont dispersées dans les paroisses. Elles sont toutes heureuses de se retrouver. Il y a près de 20 ans, la fondatrice inaugurait l'établissement de Notre-Dame-des-Chênes. Et maintenant, les locaux plus nombreux et plus vastes sont indispensables. Mais comment trouver l'argent? La Providence n'a jamais déçu. Allez voir, c'est extraordinaire encore une fois, un autre miracle. Il y a une femme originaire de Nantes qui s'est fixée dans la région Saint-Malo. Elle est devenue vieille, elle n'a plus de famille dans le pays, puis elle se trouve réduite à vivre plutôt pauvre et solitaire. Elle a une petite rente viagère. Mère Marie-Amélie visite souvent cette vieille, la console. Un jour, elle lui propose de venir à la communauté si cela lui fait plaisir. Elle répond oui. Cette vieille s'appelle Jenny Navier. Elle est depuis quelques mois à Notre-Dame-des-Chênes, lorsque meurt son dernier frère près de Paris. Il laisse un testament contestable. Un avocat Saint-Malo fait régler l'affaire et Mademoiselle Navier, la vieille dame, entre en possession d'une fortune assez rondelette. Alors la reconnaissance qu'elle a pour Mademoiselle Fristel, mère Marie-Amélie, lui inspire un beau geste. « Vous m'avez accueilli dans ma détresse Eh bien, je suis heureuse chez vous. Que ce que je possède vous serve donc à bâtir la maison que vous faites construire pour vos pauvres. Ce sera de l'argent bien employé, il me semble. Et pendant les derniers mois qu'elle passe sur la terre, Mère Marie-Amélie voit s'édifier le logement souhaité pour ces pauvres qu'elle aime par-dessus tout. Mère Marie-Amélie a maintenant 68 ans. Malgré quelques infirmités, en particulier une vue très faible, elle continue à diriger sa congrégation avec beaucoup de sagesse, puis avec beaucoup de douceur puis de joie. Elle y compte beaucoup. Tandis que sa nièce, Mère Marie-Thérèse, la remplace pour la visite des écoles, la fondatrice prend en main le noviciat. Elle y tient. Elle enseigne aux jeunes sœurs quoi? La joie. Elle égaie leurs heures de détente. Car elle dit qu'elle aime une vertu aimable et souriante. Il faut, si on veut être vertueux, être aimable et souriant. La fatigue, des fois. La hâte peut nous empêcher, c'est grave. Il faut demander pardon. L'épanouissement des cœurs dans la charité fraternelle aussi, c'est important pour elle. Et encore pleine d'énergie, de lucidité, bien mère Marie-Amélie a pourtant le pressentiment de sa fin prochaine. Elle en parle fréquemment. Au mois d'août 1866, elle fait ses adieux à ses filles. Je ne vous reverrai plus, parce qu'elles s'en vont, occupent différents postes. Mais le dénouement est proche. Soudainement foudroyée par une apoplexie, eh bien, mère Marie-Amélie Fristel, la vénérable, rend son âme à Dieu le dimanche 14 octobre 1866 à 68 ans. C'est beau ce qu'on a écrit sur sa tombe, sur la croix. C'est simple. Elle a ouvert sa main à l'indigent et tendu ses bras aux pauvres. Je répète parce que ça dit tout, sa vie. Elle a ouvert sa main à l'indigent et tendu ses bras aux pauvres. Elle a fait ça depuis son enfance, hein, vous vous souvenez? Toute sa vie. La cause de béatification de Mère Marie-Amélie Fristel est introduite déjà depuis 80 ans, en 1918. Qu'est-ce qu'on attend? Évidemment que les religieuses de cette communauté, avec confiance, attendent le jugement de l'Église pour que la vénérable Mère Marie-Amélie Fristel soit béatifiée et canonisée. Tout ce que Mère Marie-Amélie Fristel a accompli, ne s'est pas achevé avec elle, évidemment, le supérieur général qui lui succède, vous le savez, Mère Marie-Thérèse, qui n'est autre que sa nièce, la fille de son cœur, la petite Léocadie. Eh bien, c'est très beau ce qui se passe, parce que sous le généralat de Mère Marie-Thérèse, de 1866 à 1883, durant 7 ans, ben, c'est marqué par une progression constante des fondations en Bretagne, puis par un premier établissement hors de France. La congrégation issue de Notre-Dame-des-Chênes a malheureusement été violemment secouée par la persécution religieuse et qui s'est abattue sur la France, sur l'Église de France à la fin du 19e siècle. Et c'est justement par cette épreuve qu'elle a accru sa vitalité, elle s'est répandue. Et même ici, jusqu'au Canada, en Belgique, en Hollande, ils sont allés même jusqu'en Afrique. Ils sont ici, à Laval, et puis surtout à Joliette. Ils sont en Côte d'Ivoire aussi, et ailleurs, dans bien des endroits. Vous savez, c'est extraordinaire quand on pense à ces communautés. Et durant le mois d'octobre, qui est le mois des missions, a lieu chaque année la journée missionnaire mondiale qui va tomber dimanche prochain, le 18 octobre. Soyez généreux. Ces femmes donnent leur vie. Ne vous contentez pas de donner 25 sous, à moins que vous ne puissiez faire plus. Car depuis quelques années aussi, d'autre part, on se rend compte que la mission, elle est ici aussi. J'écoutais hier une mission magnifique du Relais Mont-Royal sur la prière à 7h à Radio Ville-Marie. Une des plus belles émissions que j'ai entendues sur les ondes de Radio Ville-Marie. Des jeunes qui nous parlaient de la prière avec une telle foi, une telle qualité. Mais je vous signale qu'il y a au Musée de la Civilisation à Québec des aspects peu connus de la vie religieuse. C'est que le Musée de la Civilisation fait un pari extraordinaire pour saisir l'essence de la vie en communauté de ces femmes dont je viens de vous parler, de toutes les autres, et de tous ces frères et ces prêtres. Car saisir l'essence de la vie conventuelle, rendre compte de la réalité de celles qui se sont consacrées à la vie en communauté, entre l'idéal religieux et le couvent au quotidien, la témoigner d'un choix d'existence qui, même s'il est indissociable des 300 ans d'histoire du Québec, ça n'en frappe pas moins l'imagination aujourd'hui. Et cette exposition mérite d'être vue. C'est très important. Au Musée de la civilisation, à Québec, c'est à signaler. Dieu d'infinie bonté, nous te louons pour le lumineux exemple de foi, d'humilité, de charité inconditionnelle que tu nous as donné en ta servante, Amélie Fristel. Nous te remercions pour les merveilles que tu as opérées en elle et pour celle dont elle a été l'humble instrument. Merci aussi, Seigneur, d'en avoir fait un témoin de l'Évangile pour l'Église de notre temps. Fais-nous, à son exemple, dans la lignée de Saint Jean Eudes, être d'autres Jésus en la terre, pour tous ceux et celles qui croisent nos chemins, et daigne, grâce à son intercession, accueillir favorablement les demandes que nous t'adressons avec confiance, en particulier que Radio Ville-Marie survive, grandisse et s'améliore constamment. N'a-t-elle pas affirmé avec force, Amélie Fristel, c'est par le cœur de Jésus qu'il faut tout demander avec la certitude d'être exaucé. Ô cœur de Jésus, écoute-nous, exauce-nous. Amen.